Radio Galère 88.4.
De Radio Galère et surtout bonne année. Nous vous souhaitons aujourd'hui dans notre émission Livres et Amis du mercredi 4 janvier 2023 une année pas trop mauvaise, un monde un peu meilleur, pourvu que ce ne soit pas bien sûr le meilleur des mondes. Petit clin d'œil littéraire à Aldous Huxley et aussi à Ray Bradbury. Pour nous protéger des 450 degrés Fahrenheit, la température à laquelle les livres brûlent. Revenons à Marseille. Dominique et Françoise au micro, Odile pas bien loin, de l'autre côté du transistor. Nous vous avons quitté un long moment en décembre et nous avons laissé des rediffusions. Donc, nous sommes un peu loin de l'actualité culturelle de notre bonne ville. Nous allons nous y remettre et nous vous en parlerons un petit peu plus et mieux la semaine prochaine. Donc, aujourd'hui, pour commencer en toute amitié, cette année 2023 de Livres et Amis, je suis allée dénicher dans ma bibliothèque un petit opuscule, Le goût de l'amitié. Vous connaissez peut-être cette collection au Mercure de France, au Petit Mercure même, le goût de... Ça a commencé il y a plusieurs années avec des lieux. Le goût de Florence, le goût de Londres, le goût d'Amsterdam, le goût de Lisbonne, le goût du Népal, le goût de Saint-Jacques-de-Compostelle, le goût de la Thaïlande, le goût du Tibet, etc. Et puis, ça a continué avec des notions très concrètes ou plus abstraites. Justement, le goût de l'amitié, mais le goût du baiser, le goût du bleu, le goût des haïkus, le goût du rouge, le goût de la lecture, bien sûr. Donc, voilà, aujourd'hui, le goût de l'amitié, un petit cadeau d'amitié de Livres et Amis pour la nouvelle année. Il s'agit d'un florilège littéraire réuni et présenté, donc, celui-ci par Sandrine Trainer. Nous y avons, à notre tour, pêché quelques perles au fil des pages. Partons donc au fil de l'amitié. Et commençons par le commencement. Un texte qui est le texte le plus ancien du recueil, celui d'Aristote. Aristote, dans Éthique et Nicomaque, décrit et analyse l'amitié comme un sentiment parfait. Un sentiment parfait entre deux hommes, eux aussi quasi parfaits. Il en déduit d'ailleurs la nécessité de l'amitié dans la vie de chacun, puisque chacun veut le bien de l'autre. Écoutons Aristote.
L'amitié est une sorte de vertu, ou du moins, elle est toujours escortée de la vertu. Elle est en outre un des besoins les plus nécessaires de la vie. Personne n'accepterait de vivre sans amis, eût-il d'ailleurs tous les autres biens. Plus on est riche et plus on possède de pouvoir et d'autorité, plus on éprouve, semble-t-il, le besoin d'avoir des amis autour de soi. À quoi bon en effet toute cette prospérité si l'on ne peut y joindre la bienfaisance qui s'exerce surtout et d'une si louable manière à l'égard de ceux qu'on aime? Puis, comment entretenir, comment conserver tant de biens sans amis qui vous y aident? Plus la fortune est considérable, plus elle est exposée. Par ailleurs, les amis, tout le monde en convient, sont le seul asile où nous puissions nous réfugier dans la misère et dans les revers de tout genre. Quand nous sommes jeunes, nous demandons à l'amitié de nous éviter des fautes par ses conseils. Quand nous sommes devenus vieux, nous lui demandons ses soins et son secours pour suppléer à notre activité, où la faiblesse de l'âge amène tant de défaillances. Enfin, quand nous sommes dans toute notre force, nous recourons à elle pour accomplir des actions d'éclat. Deux braves compagnons, quand ils marchent ensemble, sont bien autrement capables de penser et d'agir. Éthique à Nicomaque.
Et donc, on est plus fort et plus heureux à deux. Écoutons la suite. Toujours de l'éthique à Nicomaque. On tourne les pages.
L'amitié parfaite est celle des gens qui sont vertueux et qui se ressemblent par leur vertu, car ceux-là se veulent mutuellement du bien en tant qu'ils sont bons. Et j'ajoute qu'ils sont bons par eux-mêmes. Ceux qui ne veulent du bien à leurs amis que pour ces nobles motifs sont les amis par excellence. C'est par eux-mêmes, par leur propre nature, et non pas accidentellement, qu'ils sont dans cette heureuse disposition. De là vient que l'amitié de ces cœurs généreux subsiste aussi longtemps qu'ils restent bons et vertueux eux-mêmes. Or, la vertu est une chose solide et durable. Chacun des deux amis est bon absolument en soi, et il est bon également pour son ami. Car les bons sont à la fois et absolument bons et utiles, en outre les uns aux autres. On peut ajouter de même qu'ils se sont mutuellement agréables, et cela se comprend sans peine. Si les bons sont agréables, absolument, et s'ils sont agréables aussi les uns aux autres, c'est que les actes qui nous sont propres, ainsi que les actes qui ressemblent aux nôtres, nous causent toujours du plaisir, et que les actions des gens vertueux, ou sont vertueuses aussi, ou du moins sont pareilles entre elles. Une amitié de cet ordre est durable, comme on peut aisément le concevoir, puisqu'elle réunit toutes les conditions qui doivent se trouver entre les vrais amis. Ainsi, toute amitié se forme en vue de quelque avantage ou en vue du plaisir, soit absolument, soit d'humain pour celui qui aime. Et de plus, elle ne se forme qu'à la condition d'une certaine ressemblance. Pour le cas que nous indiquons ici, dans cette amitié-là, il y a la ressemblance en même temps que le reste, c'est-à-dire que de part et d'autre, on est absolument bon et de plus absolument agréable. Il n'est donc rien au monde de plus aimable. Et c'est dans les personnes de ce mérite que se trouve le plus souvent l'amitié et qu'elle y est la plus parfaite.
Oui, l'amitié parfaite, la vie parfaite, pourrait-on dire. D'après Aristote, l'amitié est une composante nécessaire de la vie. Elle se réalise simplement. C'est aussi un peu ce qu'écrit Flaubert dans son roman « Bouvard et Pécuchet ». Et nous allons voir en particulier la première rencontre de Bouvard et Pécuchet. C'est là.
Comme il faisait une chaleur de 33 degrés, le boulevard Bourdon se trouvait absolument désert. Plus bas, le canal Saint-Martin, fermé par les deux écluses, étalait en ligne droite son eau couleur d'encre. Il y avait au milieu un bateau plein de bois, et sur la berge, deux rangs de barriques. Au-delà du canal, entre les maisons que séparent des chantiers, le grand ciel pur se découpait en plaques d'outre-mer, et sous la réverbération du soleil, les façades blanches, les toits d'ardoise, les quais de granit éblouissaient. Une rumeur confuse montait du loin dans l'atmosphère tiède, et tout semblait engourdi par le désœuvrement du dimanche. Deux hommes parurent. L'un venait de la Bastille, l'autre du Jardin des Plantes. Le plus grand, vêtu de toile, marchait le chapeau en arrière, le gilet déboutonné et sa cravate à la main. Le plus petit, dont le corps disparaissait dans une redingote marron, baissait la tête sous une casquette à visière pointue. Quand ils furent arrivés au milieu du boulevard, ils s'assirent à la même minute sur le même banc. Pour s'essuyer le front, ils retirèrent leur coiffure que chacun posa près de soi. Et le petit homme aperçut, écrit dans le chapeau de son voisin, « Bouvard ». Pendant que celui-ci distinguait aisément dans la casquette du particulier en redingote le mot « Pécuchet ». « Tiens, dit-il, nous avons eu la même idée, celle d'inscrire notre nom dans nos couvre-chefs. »« Mon Dieu, oui, On pourrait prendre le mien à mon bureau. C'est comme moi, je suis employée. » Alors, ils se considèrent, dérèrent. L'aspect aimable de Bouvard charma de suite Pécuchet. Ses yeux bleuâtres, toujours entreclos, souriaient dans son visage coloré. Un pantalon à grands ponts, qui godait par le bas sur des souliers de castor, moulait son ventre, faisait bouffer sa chemise à la ceinture. Et ses cheveux blonds, frisés d'eux-mêmes en boucles légères, lui donnaient quelque chose d'enfantin. L'air sérieux de Pécuchet frappa Bouvard. On aurait dit qu'il portait une perruque, tant les mèches garnissant son crâne élevé étaient plates et noires. Sa figure semblait tout en profil, à cause du nez qui descendait très bas. Ses jambes, prises dans des tuyaux de lasting, manquaient de proportion avec la longueur du buste. Cette exclamation lui échappa. Comment on serait bien à la campagne ? Mais la banlieue, selon Bouvard, était assommante par le tapage des guinguettes. Pécuchet pensait de même. Il commençait néanmoins à se sentir fatigué de la capitale, Bouvard aussi. Et leurs yeux erraient sur des tas de pierres à bâtir, sur l'eau où une sorte de paille flottait, sur la cheminée d'une usine se dressant à l'horizon. Des miasmes d'égout s'exhalaient. Ils se tournèrent de l'autre côté. Alors, ils eurent devant eux les murs du grenier d'abondance. Cependant, le crépuscule tombait et des persiennes en face s'étaient relevées. Les passants devinrent plus nombreux. 7 heures sonnèrent. Leurs paroles coulaient intarissablement, les remarques succédant aux anecdotes, les aperçus philosophiques aux considérations individuelles. Ils dénigrèrent le corps des ponts et chaussées, la régie des tabacs, le commerce, les théâtres, notre marine et tout le genre humain, comme des gens qui ont subi de grands déboires. Chacun, en écoutant l'autre, retrouvait des parties de lui-même oubliées. Ou bien, et bien qu'ils eussent passé l'âge des émotions naïves, ils éprouvaient un plaisir nouveau, une sorte d'épanouissement, le charme des tendresses à leur début. Ils se quittaient pourtant, et leurs mains étaient jointes quand Bouvard dit tout d'un coup « Ma foi, si nous dînions ensemble !»« J'en avais l'idée, reprit Pécuchet, mais je n'osais pas vous le proposer. » Et il se laissa conduire en face de l'hôtel de ville dans un petit restaurant où l'on serait bien. Ainsi, leur rencontre avait eu l'importance d'une aventure. Ils s'étaient tout de suite accrochés par des fibres secrètes. Avant la fin de la semaine, ils se tutoyèrent.
L'amitié de Bouvard et Pécuchet dans le Paris du Second Empire, cette complicité de ressenti, c'est aussi ce qui apparaît à la fin du XXe siècle dans Zone, dans la ville de Venise, où se retrouvent deux héros de Zone, donc de Mathias Hénard. Francis et Gassan se retrouvent à Venise, survivants des combats des Balkans et du Proche-Orient. Marqués par les dangers et les batailles, chemin faisant, dans une vie apaisée. Gassan habitait à 2 pas, dans un appartement humide et sombre qu'il partageait avec son cousin, chef de rang, dans un palace Riva degli Schiavoni. Ce matin-là, nous prîmes un café, côte à côte, sans échanger un mot. C'est du moins ce dont je crois me souvenir. Peut-être nos innombrables petits déjeuners à l'aube au cours des mois qui suivirent se superposent-ils à cette première rencontre. Je ne sais plus à quel moment exactement j'adressais pour la première fois la parole à Gassan. Je ne crois pas que notre amitié ait été immédiate, comme on dit, dans l'éclairage jauni, dans l'air conditionné qui m'empêchait de sentir son odeur d'usine. L'amitié ou la camaraderie demandent du temps, des expériences. Et si en amour le rapprochement des corps donne l'illusion de la connaissance profonde de l'autre, comme les effluves des combattants, leur sueur et leur sang, celle de l'intimité, Gassan et moi nous sommes observés longtemps, sans rien partager, malgré la similitude de nos récits personnels, les étranges points communs immédiatement devinés, l'empathie à la ressemblance réelle ou imaginaire. Gassin aura bientôt 40 ans, s'il est toujours en vie, malgré la récente avalanche des cadavres à Beyrouth. Il m'avait expliqué que depuis le toit de son immeuble, on pouvait apercevoir la mer, mais bien plus bleue qu'à Venise, bien plus marine que cette lagune interminablement plate. La Méditerranée orientale, aux couleurs marquées par les saisons comme un arbre, du gris au turquoise, sous le ciel immense du Liban que les montagnes rendent encore plus vaste en le limitant dans le reflet des cimes. Gassan apparut un jour dans un bar à l'aube face à l'île de San Michele, le cimetière flottant de Venise avec son carré pour les étrangers. Gassan sortait de son usine de fertilisant chaque matin, son usine de fertilisant ou de je ne sais quel résidu nauséabond. Et moi, je sortais de mes errances nocturnes. Et là, nous nous retrouvions. Cette image de Venise, cette image de ces deux hommes qui se retrouvent, elle s'impose à nous. C'est comme si elle se constituait sous nos yeux. Et jusque-là, avec ces images aussi, l'amitié, c'est plutôt une vision du monde, un genre de sentiment tacite, un accord non prémédité. Mais c'est aussi quelquefois, et on va le voir dans le prochain texte, la nécessité de l'expression de cet accord, par des mots ou par des actes. Donc c'est ce qu'on trouve dans le cas de la peste de Camus. Une peste réelle, vous le savez, une peste réelle dans le roman, dans la ville d'Alger, mais en fait, sans doute, davantage pour Camus, une vision métaphorique de l'absurdité du monde, ressentie par l'auteur à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. À un moment dans la peste, deux personnages essentiels du roman, Rieux et Taroux, luttent contre le fléau en soignant leurs concitoyens. Et un jour, ils se retrouvent, un peu par hasard, en fin de journée, dans la paix du soir. Ils vont partager ce moment et partager ainsi une sorte d'amitié poétique face au monde, au ciel, à la mer. Écoutons.
Ils trouvèrent la terrasse vide et garnie de trois chaises. D'un côté, aussi loin que la vue pouvait s'étendre, on n'apercevait que des terrasses qui finissaient par s'adosser à une masse obscure et pierreuse où ils reconnurent la première colline. De l'autre côté, par-dessus quelques rues et le port invisible, le regard plongeait sur un horizon où le ciel et la mer se mêlaient dans une palpitation indistincte. Au-delà de ce qu'ils savaient être des falaises, une lueur dont ils n'apercevaient pas la source reparaissait régulièrement. Le phare de la passe, depuis le printemps, continuait à tourner pour des navires qui se détournaient vers d'autres ports. Dans le ciel balayé et illustré par le vent, des étoiles pures brillaient et la lueur lointaine du phare y mêlait, de moment en moment, une cendre passagère. La brise apportait des odeurs d'épices et de pierres. Le silence était absolu. « Il fait bon, » dit Rieux en s'asseyant. « C'est comme si la peste n'était jamais montée là. » Taroux lui tournait le dos et regardait la mer. « Oui, » dit-il après un moment, « il fait bon. » Il vint s'asseoir auprès du docteur et le regarda attentivement. Trois fois, la lueur reparut dans le ciel. Un bruit de vaisselle choqué monta jusqu'à eux, des profondeurs de la rue. Une porte claqua dans la maison. « Rieux, » dit Taroux, sur un ton très naturel, « vous n'avez jamais cherché à savoir qui j'étais? Avez-vous de l'amitié pour moi ?»« Oui, » répondit le docteur, « j'ai de l'amitié pour vous, mais jusqu'ici, le temps nous a manqué. »« Bon, cela me rassure. Voulez-vous que cette heure soit celle de l'amitié ?» Pour toute réponse, Rieux lui sourit. « Eh bien voilà. » Quelques rues plus loin, une auto sembla glisser longuement sur le pavé mouillé. Elle s'éloigna et, après elle, des exclamations confuses venues de loin rompirent encore le silence. Puis, il retomba sur les deux hommes avec tout son poids de ciel et d'étoiles. Taroux s'était levé pour se percher sur le parapet de la terrasse face à Rieux, toujours tassé au creux de sa chaise. On ne voyait de lui qu'une forme massive découpée dans le ciel. Il parla longtemps.
Brusquement, une grande lueur jaillit du côté où étaient venus les cris et remontant le fleuve du vent, une clameur obscure parvint jusqu'aux deux hommes. La lueur s'assombrit aussitôt et loin, au bord des terrasses, il ne resta qu'un rougeoiement. Dans une panne de vent, on entendit distinctement des cris d'hommes, puis le bruit d'une décharge et la clameur d'une foule. Tarou s'était levé et écoutait, mais on n'entendait plus rien. On s'est encore battu aux portes. « C'est fini maintenant, » dit Rieux. Tarou murmura que ce n'était jamais fini et qu'il y aurait encore des victimes parce que c'était dans l'ordre des choses. « Peut-être, » répondit le docteur. « Mais vous savez, je me sens plus de solidarité avec les vaincus qu'avec les saints. Je n'ai pas le goût, je crois, pour l'héroïsme et la sainteté. Ce qui m'intéresse, c'est d'être un homme. » « Oui, nous cherchons la même chose, mais je suis moins ambitieux. » Rieux pensa que Tarou plaisantait, il le regarda. Mais dans la vague lueur qui venait du ciel, il vit un visage triste et sérieux. Le vent se levait à nouveau et Rieux sentit qu'il était tiède sur sa peau. Tarou se secoua. « Savez-vous, dit-il, ce que nous devrions faire pour l'amitié ?»«
Ce que vous voulez, dit Rieux. »«
Prendre un bain de mer. » Même pour un futur saint, c'est un plaisir digne. Rieux sourit. Avec nos laissez-passer, nous pouvons aller sur la jetée. À la fin, c'est trop bête de ne vivre que dans la peste. Bien entendu, un homme doit se battre pour les victimes. Mais s'il cesse de rien aimer par ailleurs, à quoi sert qu'il se batte? Oui, dit Rieux, allons-y. Un moment après, l'auto s'arrêtait près des grilles du port. La lune s'était levée, un ciel laiteux projetait partout des ombres pâles. Derrière eux s'étageait la ville et il en venait un souffle chaud et malade qui les poussait vers la mer. Ils montrèrent leurs papiers à un garde qui les examina assez lentement. Ils passèrent et, à travers les terre-pleins couverts de tonneaux, parmi les senteurs de vin et de poisson, ils prirent la direction de la jetée. Peu avant d'y arriver, l'odeur de l'iode et des algues leur annonça la mer. Puis ils l'entendirent. Elle sifflait doucement au pied des grands blocs de la jetée, et comme ils les gravissaient, elle leur apparut, épaisse comme du velours, souple et lisse comme une bête. Ils s'installèrent sur les rochers tournés vers le large. Les eaux se gonflaient et redescendaient lentement. Cette respiration calme de la mer faisait naître et disparaître les reflets huileux à la surface des eaux. Devant eux, la nuit était sans limite. Rieux, qui sentait sous ses doigts le visage grêlé des rochers, était plein d'un étrange bonheur. Tourné vers Tarou, il devina sur le visage calme et grave de son ami ce même bonheur qui n'oubliait rien. La baignade nocturne dans la Méditerranée, à Oran ou à Alger, dans les romans de Camus, c'est quasi un moment de poésie pure. Et c'est ici un moment d'amitié pure. À propos d'amitié, on a eu l'impression jusqu'à présent qu'on parlait surtout d'hommes. Alors, on va changer un petit peu de registre et on va passer... pour l'amitié, à une chanson de Françoise Hardy pour compenser un petit peu cette masculinité dans laquelle on était. On va faire appel à la féminité et à la douceur de Françoise Hardy.
Beaucoup de mes amis sont venus des nuages. Avec soleil et pluie comme simple bagage, ils ont fait la saison des amitiés sincères, la plus belle saison des quatre de la terre. Ils ont cette douceur des plus beaux paysages et la fidélité des oiseaux de passage. Dans leur cœur est gravé une infinie tendresse, mais parfois dans leurs yeux se glisse la tristesse. Alors ils viennent se chauffer Bien d'autres visages, donner autour de toi un peu de ta tendresse, lorsqu'un autre voudra te cacher sa tristesse. Comme l'on ne sait pas ce que la vie nous donne, il se peut qu'à mon tour je ne sois plus personne. S'il me reste un ami qui vraiment me comprenne, j'oublierai à la fois mes larmes et mes peines. Alors, peut-être, je viendrai chez toi chauffer mon cœur à ton bois.
Chauffer mon cœur à ton bois. C'est un peu comme les images de Mathieu Hénard, hein, les chansons de Françoise Hardy. Ça nous remet dans une poésie, en effet, et dans une amitié qui comme ça, se constitue au fil des notes et des mots. Alors, on le disait tout à l'heure, on avait l'impression d'extraits qui étaient plutôt dédiés à des amitiés masculines. Enfin, c'était le cas, nos extraits étaient dédiés à des amitiés masculines. Venons-en donc ici à l'amitié dans le prochain extrait entre un homme et une femme. C'est un extrait du roman d'Emmanuel Carrère, « D'autres vies que la mienne ». Il s'agit d'amitié au travail pour le plaisir d'une efficacité en commun. Écoutons.
Ils s'étaient reconnus. Ils avaient traversé les mêmes souffrances dont on n'a pas idée si on ne les a pas traversées. Ils venaient du même monde. Leurs parents à tous deux étaient parisiens et bourgeois, scientifiques et chrétiens. Ceux de Juliette de droite, ceux d'Étienne de gauche. Mais cette différence comptait peu comparée à l'idée également haute que se faisaient ces familles de leur rang. Ils avaient épousé tous deux des gens d'un milieu plus modeste, comme on disait, et les aimaient profondément. Leur mariage était le centre de leur vie, la clé de leurs accomplissements. Ils avaient tous les deux cette assise et on les aurait surpris en leur disant, avant qu'ils se rencontrent, qu'il leur manquait quelque chose. Mais ce quelque chose dont ils n'éprouvaient pas le manque, ils l'ont accueilli quand il est survenu avec émerveillement et gratitude. Étienne, fidèle à sa manie de contredire ses interlocuteurs, récuse le mot d'amitié. Mais je dis qu'être ami, c'est cela, et qu'avoir dans la vie un véritable ami, c'est aussi rare et précieux qu'un véritable amour. Il est vrai qu'entre un homme et une femme, c'est plus compliqué, parce que le désir s'en mêle et avec lui, l'amour. Là-dessus, les concernant, je n'ai rien à dire, ou seulement que Patrice d'un côté, Nathalie de l'autre, ont compris que pour la première fois, quelqu'un d'autre comptait dans la vie de Juliette et dans celle d'Étienne, et qu'ils en ont pris leur parti. Hormis celle que je viens de rapporter, ils n'avaient guère de conversations intimes. Leurs échanges tournaient autour du travail. On peut aimer travailler avec quelqu'un comme on aime faire l'amour avec quelqu'un. Et Étienne, qui survit à Juliette, sait qu'il gardera toujours la nostalgie de leur entente. Il n'y avait aucun contact physique entre eux. Ils s'étaient serré la main au début de leur premier rendez-vous, mais pas à la fin, ni jamais par la suite. Ils ne s'embrassaient pas, non plus. Ils ne se saluaient même pas d'un signe de tête, ne se disaient ni bonjour, ni au revoir. Qu'ils se soient quittés la veille ou pendant un mois de vacances, ils se retrouvaient comme si l'un revenait de la pièce voisine où il était allé chercher un dossier une minute plus tôt. Mais il y avait, dit-il, quelque chose de charnel et de voluptueux dans leur façon de faire du droit ensemble. Ils aimaient tous les deux le moment où se découvre la faille, où le raisonnement vient bien, se déroule de lui-même. « J'adore, disait Juliette, quand tes yeux se mettent à briller. »
Quand tes yeux se mettent à briller, oui. D'autres vies que la mienne, dont nous venons de lire un extrait, a été écrit par Emmanuel Carrère en 2009. Et je trouve que c'est totalement contemporain. C'est sûrement dû à l'écriture d'Emmanuel Carrère, avec laquelle je ressens une symbiose totale. C'est justement comme un ami qui m'a écrit, qui vient de m'écrire, qui m'a écrit hier. Et cette symbiose, je la ressens aussi avec d'autres écritures, pourtant beaucoup plus éloignées dans le temps. Je voulais vous donner l'exemple d'un texte qui a un siècle de plus que celui d'Emmanuel Carrère. C'est un extrait de Jules et Jim, d'Henri-Pierre Rocher. Jules et Jim, le livre comme le film. Disons le film de Truffaut, hein, vous vous souvenez. Ce sont en fait des mots et des images qui rendent heureux. C'est un peu comme l'amitié, en effet, avec un livre ou avec un film. Et c'est aussi justement ce qu'a écrit François Truffaut avant de commencer l'adaptation du roman pour faire son film. Il dit ou il écrit « Jules et Jim, c'est un hymne à la vie et à la mort, un hymne à l'amour et à l'amitié ». Et donc les personnages sont là avant la Première Guerre mondiale. Jules et Jim deviennent de grands amis. Et ils rencontrent à un moment Kate qui va venir bouleverser leur vie à tous les deux. Est-ce que c'est un signe que l'amour est plus fort que l'amitié? En fait, rien n'est moins sûr. À la fin du roman, c'est de sa relation avec Jim que Jules se souvient. C'était vers 1907. Le petit héron Jules, étranger à Paris, avait demandé au grand et mince Jim, qu'il connaissait à peine, de le faire entrer au bal des Quatre-Arts, et Jim lui avait procuré une carte et l'avait emmené chez le costumier. C'est pendant que Jules fouillait doucement parmi les étoffes et choisissait un simple costume d'esclave qu'était née l'amitié de Jim pour Jules. Puis elle grandit pendant le bal où Jules fut tranquille, avec des yeux comme des boules, plein d'humour et de tendresse. Ils eurent le lendemain leur première vraie conversation. Jules n'avait pas de femme dans sa vie parisienne et il en souhaitait une. Jim en avait plusieurs. Il lui fit rencontrer une jeune musicienne. Le début sembla favorable. Jules fut amoureux une semaine, et elle aussi. Puis Jules la trouva trop cérébrale, et elle le trouva placide et ironique. Jules et Jim continuèrent à se voir tous les jours. Chacun enseignait à l'autre, jusque tard dans la nuit, sa langue, sa littérature. Ils se montraient leurs poèmes, ils traduisaient ensemble, ils causaient sans hâte. Et aucun des deux n'avait jamais trouvé un auditeur si attentif. Les habitués du bar leur prêtèrent bientôt à leur insu des mœurs spéciales. Jim introduisit Jules dans des cafés littéraires où fréquentaient des célébrités. Jules y fut apprécié et Jim en fut content. Jim avait une camarade dans un de ses cafés, une jolie petite femme désinvolte, qui tenait le coup aux halles mieux que les poètes jusqu'à 6 heures du matin. Elle distribuait de haut ses faveurs brèves. Elle conservait à travers tout une liberté hors la loi et un esprit rapide qui frappait juste. Ils eurent des sorties à trois. Elle déconcertait Jules, qu'elle trouvait gentil mais ballot. Il la jugeait remarquable mais terrible. Elle amena pour Jules une amie bonasse, mais Jules la trouva bonasse. Jim ne put donc rien pour Jules. Il l'engagea à chercher seul. Jules, peut-être gêné par son français encore imparfait, échouait toujours. Jim dit à Jules « Ce n'est pas une question de langue » et lui exposa des principes. « Autant me prêter vos souliers, vos gants de boxe, » dit Jules. « Tout cela est trop grand pour moi. » Jules, malgré l'avis de Jim, prit contact avec des professionnels sans y trouver satisfaction. Ils se rabattirent sur leur traduction et sur leurs entretiens. Donc pour l'instant, Jules et Jim, on n'ira pas plus loin. Mais vous le savez, après, ils rencontrent Kate et c'est évidemment une grande aventure. Jules et Jim, encore deux hommes, donc, mais surtout très vite, deux hommes et une femme. Revenons tout de même à deux hommes, ou plutôt deux adolescents, avec un roman mondialement connu, L'ami retrouvé de Fred Ullmann. Au cœur du XXe siècle, dans l'Allemagne qui se nazifie, le roman de Ullmann va se déplier. Et on va en lire d'abord une petite introduction et ensuite un extrait.
Qui voudrait d'un monde où les affinités seraient dépendantes de la classe sociale, du sexe, de la religion ou de la couleur de peau ? Qui doutera néanmoins que l'histoire éprouve les sentiments que la paix laisse ronronner en toute quiétude ? L'ami retrouvé s'ouvre par la rencontre de deux jeunes tempéraments isolés, de ceux qui ne se livrent pas aisément. Nous sommes en Allemagne, au début des années 30. Le narrateur est juif. Konrad est issu d'une grande famille de la noblesse prussienne. Le nazisme est appelé au pouvoir par les électeurs allemands, et c'est la chaleur d'une grande amitié enfantine qui est balayée par les vents. La porte de la belle maison de Konrad se ferme au jeune juif qui assiste à l'endoctrinement idéologique et social de son seul véritable ami. Je ne puis me rappeler exactement le jour où je décidai qu'il fallait que Konrad devînt mon ami, mais je ne doutais pas qu'il le deviendrait. Jusqu'à son arrivée, j'avais été sans ami. Il n'y avait pas dans ma classe un seul garçon qui répondît à mon romanesque idéal de l'amitié. Pas un seul que j'admirais réellement, pour qui j'aurais volontiers donné ma vie, et qui eût compris mon exigence d'une confiance, d'une abnégation et d'un loyalisme absolu. Tous m'apparaissaient comme des souabes, bien portants et dépourvus d'imagination, plus ou moins lourds et assez insignifiants, et les membres du caviar eux-mêmes n'y faisaient pas exception. La plupart d'entre eux étaient gentils et je m'entendais assez bien avec eux. Mais tout comme je n'avais pas pour eux de sympathie particulière, ils n'en avaient pas pour moi. Je n'allais jamais chez eux et ils ne venaient jamais chez moi. Peut-être une autre raison de ma froideur était-elle due à ce que tous avaient l'esprit terriblement positif et savaient déjà ce qu'ils seraient plus tard, avocats, officiers, professeurs, pasteurs, banquiers. Moi seul n'en avais aucune idée. Je me bornais à de vagues rêveries et à des désirs plus vagues encore. Je ne souhaitais qu'une chose, voyager, et je croyais que je serais un jour un grand poète. J'ai hésité avant d'écrire un ami pour qui j'aurais volontiers donné ma vie. Mais même après 30 années écoulées, je crois que ce n'était pas une exagération et que j'eusse été prêt à mourir pour un ami, presque avec joie. Entre 16 et 18 ans, les jeunes gens allient parfois une naïve innocence et une radieuse pureté de corps et d'esprit à un besoin passionné d'abnégation absolue et désintéressée. Cette phase ne dure généralement que peu de temps, mais à cause de son intensité et de son unicité, elle demeure l'une des expériences les plus précieuses de la vie.
Oui, on peut relire toujours, enfin à l'infini, l'ami retrouvé, comme on peut relire toujours Inconnu à cette adresse. C'est un peu ce sentiment d'éternité qui s'inscrit dans les textes. Et on a une vision de l'amitié qui est à la fois inscrite dans les faits et complètement idéale. Alors, inscrite dans les faits et beaucoup moins idéale, pourrait-on dire, on va retrouver une amitié partagée, une amitié qui ne dit rien ou qui, du moins, n'a pas besoin de mots pour s'exprimer. Avec un texte que vous connaissez aussi sûrement de John Steinbeck, celui des souris et des hommes qui mettent en scène deux saisonniers dans la grande dépression, la grande crise des États-Unis des années 30. Les ouvriers agricoles, les saisonniers engagés pour une poignée de dollars qui tentaient de bâtir une vie sur la misère, sont les personnages principaux du roman. Et il y a dans ce court roman, réaliste autant que poétique, une espèce de lien avec les poèmes de Robert Burns. Les plans les mieux conçus des souris et des hommes souvent ne se réalisent pas. Alors en fait, c'est vrai, les plans de Lenny et de son ami Georges ne vont pas se réaliser. Le plan de Lenny et Georges, qui les distingue de tous leurs compagnons d'infortune, c'est d'avoir un jour un lopin de terre à eux, une façon de survivre autrement. Donc ce plan, il est simple et lumineux, c'est gagner de l'argent pour en effet pouvoir acheter ce lopin de terre et vivre en homme libre. En attendant, le plaisir le plus intense de Lenny, c'est d'amener Georges à raconter en effet comment ça sera quand ils auront cette ferme. Mais vous le savez, Lenny, l'innocent, tue en toute innocence aussi bien les petits animaux qui l'entourent que un jour la femme du fermier chez qui il travaille. Donc dans la scène que nous allons lire, Lenny est seul, mais finalement il ne se sent jamais seul parce qu'il sait que pas loin il y a Georges. Et Georges arrive. Quoi ? J'ai encore fait quelque chose de mal. « Oh, ça ne fait rien, » dit Georges. Et le silence retomba. Il n'y avait plus que l'extrême crête des montagnes qui fut maintenant au soleil. Dans la vallée, l'ombre était douce et bleue. Des voix d'hommes qui s'interpellaient retentirent au loin. Georges tourna la tête et écouta les cris. Lenny dit « Georges, quoi ? Tu vas pas m'engueuler ? T'engueuler ? Ben oui, comme tu l'as déjà fait, comme ça, tu sais bien. » Si je t'avais pas avec moi, je prendrais mes $50. Ah, nom de Dieu, Lenny, mais non, tu te rappelles rien de ce qui se passe. Moi, je me rappelle les mots, je vais te dire. Alors, bon, tu vas pas m'emmerder maintenant. Georges se secoua et dit avec raideur. Si j'étais seul, la vie serait plus facile. Il parlait d'une voix blanche monocorde. Je pourrais me trouver du travail et j'aurais jamais d'embêtement. Il s'arrêta. Continue, dit Lenny, et à la fin du mois ? À la fin du mois, je prendrai mes $50 et je m'en irai. Au claque, en ville. Il s'arrêta encore. Lenny le regardait avec passion. Continue, Georges, tu vas pas m'engueuler. Non, dit Georges. Bon, alors, je peux m'en aller. Je vais m'en aller là-haut. Dans la montagne, me chercher une caverne, si tu veux plus de moi. Georges se secoua de nouveau. Non, non, je veux que tu restes ici avec moi. Lenny dit avec astuce. Dis-moi, comme t'as déjà fait, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? La différence entre nous et les autres types. Et Georges dit. Ben oui, les types comme nous, ils n'ont pas de famille, ils se font un peu d'argent et puis ils dépensent tout. Il n'y a personne dans le monde pour se faire de la bile à leur sujet. « Mais pas nous !» s'écria Lenny tout heureux. « Alors raconte comment c'est pour nous. » Et Georges, au bout d'un moment, « Bah oui, mais pas nous, » dit-il. « Parce que moi, je t'ai et moi, je t'ai. On est là, tous les deux, à se faire de la bile l'un pour l'autre. Voilà !» s'écria Lenny triomphant. La brise du soir souffla légèrement dans la clairière et une risée courut sur l'herbe verte. Et de nouveau, les voix des hommes, retentirent, beaucoup plus près cette fois. Georges enleva son chapeau et il dit avec un frémissement dans la voix « Enlève ton chapeau, Lenny, il fait bon. » Lenny docile enleva son chapeau et le posa par terre devant lui. Dans la vallée, l'ombre se faisait plus bleue et le soir tombait vite. Le vent leur apporta un bruit de broussailles foulées. Lenny dit « Raconte comment ça sera. » Georges avait écouté les bruits lointains. Il sembla un instant parler comme un homme d'affaires. « Regarde par-dessus la rivière, Lenny. Je vais te raconter si bien que tu pourras presque le voir. » Lenny tourna la tête et regarda par-dessus la rivière les sombres pans de montagnes. On aura une petite ferme, commença Georges. Il mit la main dans la poche de son veston et en sortit le Luger de Carlson. Il enleva le cran d'arrêt et laissa main et revolver sur le sol derrière Lenny. Il regarda la nuque de Lenny, l'endroit où l'épine dorsale rejoignait le crâne. En amont, une voix d'homme appela et une autre voix d'homme lui répondit. « Continue, dit Lenny. » Georges leva le revolver et sa main tremblait de nouveau. Il laissa retomber sa main sur le sol. « Alors, dit Lenny, comment ça sera? On aura une petite ferme? On aura une vache, dit Georges, et on aura peut-être un cochon et des poulets et dans le champ un carré de luzerne. Pour les lapins, hurla Lenny. Pour les lapins, répéta Georges. Et c'est moi qui soignerai les lapins. Et c'est toi qui soigneras les lapins. Lenny gloussait de bonheur. Et on vivra comme des rentiers. Oui, oui, on vivra comme des rentiers. Lenny tournait la tête. Non, Lenny, regarde là-bas, par-dessus la rivière. C'est presque comme si on pouvait la voir, notre ferme. Lenny obéit. Georges baissa les yeux vers le revolver. Maintenant, on entendait des pas dans les fourrés. Georges se retourna et regarda dans leur direction. Continue, Georges. Alors, qu'est-ce qu'on fera? C'est bientôt qu'on va la voir? Oui, oui, bientôt. Toi et moi, moi et toi. Tout le monde sera gentil avec toi, Lenny. On n'aura plus d'embêtement. On ne fera plus de mal à personne. Et Lenny dit, ah, c'est bien, je croyais que tu étais fâché avec moi, Georges. Mais non, dit Georges, non, Lenny, je suis pas fâchée, j'ai jamais été fâchée, je le suis pas maintenant. C'est ça, c'est une chose dont je veux que tu sois sûr. Les voix se rapprochaient, Georges leva le revolver, écouta les voix. Lenny supplia. Ouais, faisons-le tout de suite, achetons-la tout de suite, la petite ferme. Ouais, tout de suite, on va le faire tout de suite, on va le faire tous les deux. Et Georges leva le revolver. Bon, ben voilà, c'est des souris et des hommes, c'est Steinbeck, et c'est ça aussi l'amitié, donc on va pas rester là-dessus, on va se faire une petite lecture un peu plus distractive et plus ironique aussi, donc je vais laisser Françoise vous lire une fable de La Fontaine. Fable de La Fontaine sur un ermite et un ours. Bon, vous allez voir, c'est un peu comme Steinbeck, ça se termine mal, mais autrement quand même, puisque ça se termine mal complètement dans l'humour.
Certains ours montagnards, ours à demi léchés, confinés par le sort dans un bois solitaire, nouveau bêlé au fond, vivaient seuls et cachés. Il fut devenu fou, la raison d'ordinaire n'habite pas longtemps chez les gens séquestrés. Il est bon de parler, et meilleur de se taire, mais tous deux sont mauvais lorsqu'ils sont outrés. Nul animal n'avait affaire dans les lieux que l'ours habitait, si bien que tout ours qu'il était, il vint à s'ennuyer de cette triste vie. Pendant qu'il se livrait à la mélancolie, non loin de là, certains vieillards s'ennuyaient aussi de sa part. Il aimait les jardins, était prêtre de flore, il était de Pomone encore. Ces deux emplois sont beaux, mais je voudrais parmi quelques doux et discrets amis. Les jardins parlent peu, si ce n'est dans mon livre, de façon que lassé de vivre avec des gens muets, notre homme, un beau matin, va chercher compagnie et se met en campagne. L'ours, porté par d'un même dessein, venait de quitter sa montagne. Tous deux, par un cas surprenant, se rencontrent en un tournant. L'homme eut peur, mais comment esquiver et que faire? Se tirer en gascon d'une semblable affaire, et le mieux. Il sut donc dissimuler sa peur. L'ours, très mauvais complimenteur, lui dit « Viens-t'en me voir !» L'autre reprit « Seigneur, vous voyez mon logis. Si vous me vouliez faire tant d'honneur que d'y prendre un champêtre repas, j'ai des fruits, j'ai du lait. Ce n'est peut-être pas de nos seigneurs les ours le manger ordinaire. Mais j'offre ce que j'ai. L'ours l'accepte, et d'aller. Les voilà bons amis avant que d'arriver. Arrivés, les voilà se trouvant bien ensemble. Et bien qu'on soit, à ce qu'il semble, beaucoup mieux seul qu'avec des sceaux, comme l'ours en un jour ne disait pas deux mots, l'homme pouvait sans bruit vaquer à son ouvrage. L'ours allait à la chasse, apportait du gibier, faisait son principal métier, d'être bon émoucheur, écartait du visage de son ami dormant ce parasite ailé, que nous avons mouche appelé. Un jour que le vieillard dormait d'un profond somme, sur le bout de son nez, une, allant se placer, mit l'ours au désespoir. Il eut beau la chasser, « Je t'attraperai bien, dit-il, et voici comme, aussitôt fait que dit. Le fidèle émoucheur vous empoigne un pavé, le lance avec roideur, casse la tête à l'homme en écrasant la mouche. Et non moins bon archer que mauvais raisonneur, roi de mort étendu sur la place, il le couche. Rien n'est si dangereux qu'un ignorant ami. Mieux vaudrait un sage ennemi. »
Hey. Alors, sage ennemi ou ignorante amie, elle en rigolait à la lecture, hein, Françoise. Donc, on va quand même pas s'arrêter là, parce que là, non seulement on était entre deux hommes, mais on était entre un ours et un homme, donc on va pas conclure là-dessus. Je vais vous emmener jusque dans les romans de Doris Lessing, avec Le Carnet d'or, qui est aussi, bien sûr, un roman... qu'on a longuement partagé dans de très nombreux pays. Et puis, comme ça, au moins, avec Doris Lessing, on va finir par l'amitié entre deux femmes. Ah, je sais, j'ai découvert pendant ton absence que nous sommes interchangeables pour la plupart des gens, toi et moi. C'est Anna qui parle à Molly. « Tu viens seulement de t'en apercevoir !» s'écria Molly de cet air triomphant qu'elle arborait chaque fois qu'Anna découvrait ce qui lui paraissait une vérité de la palisse. Dans leur rapport, un équilibre s'était établi très tôt. Molly était plus au fait des choses de ce monde, mais Anna la dominait intellectuellement. Anna se garda d'exprimer son opinion et reconnut d'un sourire qu'elle avait été bien lente à découvrir cette évidence. « Eh oui, nous sommes interchangeables pour la plupart des gens. »« Alors que nous sommes tellement différentes en tout, » poursuivit Molly. « C'est curieux tout de même. Ce doit être parce que nous menons toutes deux le même genre de vie. Sans nous marier, sans avoir de vrais liens, les gens ne voient rien d'autre. »« Eh oui, femme libre !» dit Anna d'un ton ambigu. Puis elle ajouta, avec une colère que Molly ne lui connaissait pas, si bien qu'elle eut droit à un second coup d'œil inquisiteur, « On nous définit encore, même les gens les plus évolués, en fonction de nos relations avec les hommes. C'est peut-être bizarre, mais c'est difficile à éviter. » Pendant le court silence qui suivit, elles évitèrent de se regarder, songeant qu'une séparation d'un an était bien longue, même pour une vieille amitié comme la leur. Finalement, Molly déclara en soupirant. « Libre ! » !»« Ben oui, libre. Tu sais, là-bas, je pensais à nous, et je suis arrivée à la conclusion que nous sommes des femmes d'une race absolument nouvelle. Ce doit être vrai. C'est vrai, n'est-ce pas ? Le Carnet d'or, c'était, c'était en 1975, donc les femmes libres, je pense qu'elles avaient commencé à exister bien avant, mais peut-être que la révélation n'en était vraiment affirmée que dans ces années-là. Pour vous laisser, et quand même avant de vous laisser avec Georges Brassens, on va lui confier hein, nos copains d'abord. Avant de vous laisser donc avec Georges Brassens, je vais vous livrer une dernière conclusion de Sandrine Trainer, la présentatrice, on pourrait dire l'autrice de ce recueil. Elle nous écrit « Ne me déteste jamais », me prévenant déjà il y a quelque temps que je devais me préparer à ton absence ou à la déception. « Ne me déteste jamais, car on ne déteste jamais l'ami qu'on a aimé. On en garde seulement une sorte de nostalgie et une sensation de solitude qui s'adoucit avec le temps, jusqu'à ce que la tendresse disparue ne reste que le souvenir d'une émotion,
dont on ne sait plus très bien si elle provient d'une histoire vécue ou lue dans un de ces livres si chers qu'ils sont devenus eux-mêmes de vieux amis. Alors, les livres sont de vieux amis. Georges Brassens est un vieil ami. On va lui laisser 4 minutes pour conclure. À la semaine prochaine. À bientôt.
Ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en perpénard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fluctuates nec mergitures, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits Castor et Pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie, sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile il l'avait pas lu, mais il s'aimait toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confiteor, aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le quart, c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, que leurs bras lançaient des SES, on aurait dit des sémaphores, les copains d'abord. Au rendez-vous des bons copains, y avait pas souvent de lapins. Quand l'un d'entre eux manquait à bord, c'est qu'il était mort. Oui, mais jamais, au grand jamais, son trou dans l'aune se refermait. 100 ans après qu'aucun de sort, il manquait encore. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord.